Cœur Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury.
Jean-Luc Génère et Nadir Amaoui sont là. Bonjour messieurs. Jean-Luc Génère, infatigable homme de théâtre, auteur, metteur en scène, comédien, critique aussi pour le Figaro Magazine, pour Valeurs Actuelles, critique redouté et redoutable, nous le connaissons bien. Et puis Nadir Amaoui, blogueur, un peu attaché de presse aussi. Pas encore comédien, mais sait-on jamais, ça pourrait arriver.
On sait jamais.
Enfin bref, vous avez tous les deux la passion. Nous partageons tous les trois la même passion pour le théâtre. Alors aujourd'hui, nous recevons Julien Delpech et Alexandre Foulon, auteurs de la pièce, et Charlotte Maznev, son metteur en scène. Et la pièce s'appelle « Les Téméraires » et c'est rudement bien. Alors il y a 7 comédiens sur scène qui interprètent 30 personnages et qui donnent à rire au milieu de la haine. Et on a des grands moments de rire, de joie aussi, de complicité. Et puis des moments d'émotion. Il y a un moment particulièrement d'émotion. Nous allons en reparler avec vous, Charlotte Maznev, parce que c'est vous qui l'avez parfaitement orchestré. Nous sommes en 1894. C'est l'affaire Dreyfus qui divise la France. On est en plein succès littéraire et contre l'avis de son éditeur, Zola enquête sur le cas Dreyfus. Et puis depuis son studio de cinéma, on a Méliès qui, lui, s'engage à dénoncer un mensonge d'État. Alors, malgré les menaces soutenues par leur femme, l'un écrit l'article le plus connu de l'histoire, J'accuse, et l'autre réalise le premier film censuré du monde. Deux hommes, deux médias finalement, Zola et la presse, Méliès et le cinéma. Ces deux aventures en parallèle, c'est ce qui donne ces téméraires. Mais alors, comment vous est venu de parler de cinéma et de parler de presse au théâtre ?
J'ai découvert lors d'une conférence
Julien
que
Delpech.
Zola était probablement mort assassiné.
Oui.
Et à ce moment-là, en lisant des biographies, on se rend compte que c'est sûrement à cause de J'accuse et de l'engagement dans l'affaire Dreyfus. Et le parallèle avec le cinéma est venu en travaillant avec Alexandre Foulon, où en faisant des recherches, on s'est rendu compte qu'il avait fait le premier film qui a inspiré le genre du documentaire. Et on s'est dit que c'était le moyen parfait pour raconter l'affaire Dreyfus par un biais pédagogique.
C'est ça, et assez léger, puisque l'idée c'était de passer par les répétitions de ce film,
oui.
Les comédiens qui répètent. Ça nous permet de donner toutes les informations sur l'affaire Dreyfus, car les plus jeunes ne connaissent pas forcément tous les détails de l'affaire Dreyfus, et ainsi pouvoir s'adresser à tout le monde dans la salle, aux plus jeunes comme aux plus âgés, mais d'une manière légère, donnant les infos de manière légère, et en parallèle, du coup, montrer la puissance de l'engagement de Zola à travers son fameux J'accuse.
Oui, mais alors, l'affaire Dreyfus, tout le monde la connaît, et de la mettre en scène, c'est plus du théâtre, c'est comme la pièce de Caron, on a le bon et on a le méchant, on sait que le bon, c'est Zola, et que ça se termine comme ça, donc il n'y a pas de conflit, donc il n'y a pas de théâtre. Mais vous avez réussi non seulement à créer un conflit, à créer du théâtre, et Charlotte Maznev à en faire un spectacle.
Alors moi, j'ai mis en scène cette pièce et c'est vrai que ce qui m'a attirée à la lecture, c'est exactement ça, c'est-à-dire le parallèle entre l'émotion poignante qu'on peut avoir quand on suit le trajet de Zola et un homme, Méliès, qui va également à sa manière dénoncer cette affaire Dreyfus, mais avec son côté un peu, on dirait, à la Terry Gilliam ou Tim Burton, c'est-à-dire avec son côté complètement avant-gardiste, fou. Et du coup, c'est vrai que théâtralement parlant, ça nous amène la possibilité, en tant que metteur en scène, et c'est ça que j'ai adoré, d'amener de la folie là où on s'y attend pas. Et donc, on raconte l'affaire Dreyfus, mais de manière...
Parce qu'en fait, c'est pas l'affaire Dreyfus.
C'est pas l'affaire Dreyfus, c'est l'affaire Dreyfus.
L'histoire est en marche, elle ne s'arrêtera pas. Mais c'est pas Alfred Dreyfus, parce que c'est un con comme tout le monde. Mais on en fait un saint laïque. Mais c'était un type qui avait son caractère, qui n'était pas très très sympathique, qui était même assez antipathique. C'est la raison pour laquelle il va se prendre tout le monde dans la gueule. Et alors ensuite, il va y avoir l'horrible tension, l'antisémitisme et tout le tralala qui vont être épouvantables. Et ce que veut Zola, c'est la vérité. Et lorsqu'il reviendra de l'île du diable, Dreyfus, il y aura un dîner chez Zola avec Alexandrine Zola, Dreyfus, Madame Dreyfus et Clémenceau. Et à la fin du dîner, Clémenceau va dire « Mais c'est qui ce con ?» Et Zola va répondre, je le connaissais pas. Mais ce qui était, il fallait se battre pour la vérité. Et c'est ce qu'on voit dans votre spectacle. C'est-à-dire qu'on ne juge pas, ni en bien, ni en mal, le capitaine Dreyfus. On juge cette machine infernale qui fait qu'un innocent va être condamné et cette machine qui va repartir à rebours avec un cinéaste et un auteur. C'est la force de votre spectacle, à mon avis. C'était ce que vous vouliez.
Une des phrases de Zola. Oui. Non, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'une des phrases de Zola qui est dit dans la pièce, il dit « Je n'ai qu'une passion, celle de la lumière.
Oui. »
Donc, et en parallèle, tout Méliès, c'est du cinéma, c'est de la lumière. Donc, comment on fait de la lumière avec du cinéma et en s'engageant aussi pour une certaine vérité, pour dénoncer une injustice, une machination organisée par l'état-major.
En fait, l'affaire Dreyfus, c'est vraiment l'histoire de n'importe quel innocent qu'on accuse. Mmh, ouais.
C'est le bouc émissaire.
C'est le bouc émissaire. Exactement. Et ça, c'est vrai qu'on en voit tout le temps. Et ça peut parler à n'importe qui. Ouais. Après, effectivement, ce qu'il y a de chouette, moi, je trouve, c'est que dans la pièce que Julien et Alexandre ont écrite, on n'est jamais... on ne voit jamais le point de vue de Dreyfus.
Oui,
c'est-à-dire que Dreyfus est toujours traité soit par Zola, soit par Méliès, mais on ne sait pas réellement qui est Dreyfus.
Absolument.
On ne voit jamais, en fait, on ne se positionne jamais sur la vérité.
Et c'est ça qui est très réussi, ouais. Vraiment.
Et on a retrouvé, il existe toutes les lettres de Zola qui ont été compilées, et dans ces échanges, il dit je ne pouvais pas dormir en sachant ce qui s'est passé et en ne prenant pas part justement dans ce combat pour la vérité. Enfin, comment dire, c'est le combat pour un innocent au-delà d'être un combat pour Dreyfus.
Et Zola met sa notoriété dans la balance parce qu'il est très connu, il est très riche, il connaît tous les ministres, les journalistes, il connaît absolument tout le monde. Donc, il y met tout son poids à ce moment-là.
C'est ça, ce qui nous a vraiment plu pour parler de J'accuse, c'est que ce dont on ne se rend pas compte, c'est qu'au moment où il écrit J'accuse, il met toute sa vie en jeu. C'est-à-dire que ce qu'il vise, c'est un procès et il sait qu'il perdra ce procès. Alors qu'il est tout en haut, il a la fortune, la gloire, la reconnaissance, il se décide d'aller en prison pour sauver un inconnu. Mmh. C'est quand même un geste assez incroyable. Je ne sais pas quelle célébrité aujourd'hui ferait ça.
Absolument. Nadir, vous avez vu la pièce ?
Oui, à Avignon, comme vous, Christophe. Et c'est vrai que je connaissais pas tout autour de l'affaire Dreyfus, donc je savais le J'accuse de Zola, mais je ne savais absolument pas que Méliès avait aussi fait un film. Je crois que vous le dites dans la pièce, c'est le premier film qui durait 10 minutes, c'est ça, je crois.
13 minutes.
Donc, qui était le plus long film qui avait été fait à ce moment-là. Donc, je découvre vraiment le combat qu'avait fait Méliès contre Zola. Et la chose que j'ai trouvé vraiment extraordinaire dans la pièce, en dehors de toute la pièce, moi, j'ai trouvé très belle. La mise en scène, elle est excellente aussi. Et il y a quelque chose que j'ai trouvé très beau dedans. Il y a une scène aussi que j'ai beaucoup aimée. Je pense que ça doit être la même, Christophe. C'est que ces deux monstres-là, donc Méliès et Zola, ne se rencontrent quasiment jamais. Il n'y a qu'une seule rencontre. Et c'est à la fin de la pièce, et c'est un pur hasard. Et ça, je dis, mais c'est génial. En fait, les deux se battent depuis des mois pour défendre justement l'injustice, mais ils ne se sont jamais contactés ni fait quelque chose de concert pour défendre. Ils ont tout fait chacun de leur côté. Ils ne se voient jamais, ils ne se rencontrent jamais, mais...
C'est votre invention, Julien et Alexandre, qui ne se rencontrent pas, ou qui se rencontrent justement juste à la fin.
Alors, ils ont été à Londres à peu près au même moment.
D'accord.
C'est vrai, sur la même temporalité. Après, on n'a pas de preuve qu'ils se soient vraiment rencontrés.
Alors que dans toutes les scènes, on a essayé d'être le plus exact possible par rapport à la réalité, en se documentant avec des gens, diverses sources. Et vraiment, on a essayé que toutes les scènes, on a essayé d'avoir le moins d'inventions possible. Donc voilà, ça c'est à peu près la seule invention qu'on a eue. Mais sinon, on a essayé d'être le plus exact sur le déroulé de cette histoire.
Et le petit clin d'œil, c'est que donc la première a eu lieu hier, et donc il y avait l'arrière-petite-fille de Zola et l'arrière-petit-fils de Méliès, qui pour le coup se sont rencontrés lors de la représentation.
Selfie.
c'est vraiment magnifique.
Ah oui, ça c'est vraiment magnifique. Alors, le film est projeté à la fin de la représentation.
Oui, évidemment pas dans son intégralité. Hein, je rassure tout le monde parce qu'on n'a pas 13 minutes de.
Oui.
Mais effectivement, oui, on a. Je trouvais important qu'à un moment donné, vu qu'on parle quand même du film pendant tout le spectacle, qu'on voit quelques images pour voir ce que c'était que ce film, ce que c'est que ce film, qu'on peut trouver d'ailleurs sur Internet. Hein, on tape. On tape affaire Dreyfus Méliès, on tombe dessus tout de suite. Sauf que, évidemment, avec nos codes aujourd'hui, le film est complètement sombre, incompréhensible. Et si on n'a pas un petit peu les tenants et les aboutissants de l'affaire Dreyfus, je pense qu'on comprend, mais vraiment à rien du tout au film.
Donc en fait, toute la pièce, c'est l'explication du film.
Non, mais ce que je trouvais de chouette, parce que la costumière a fait vraiment des très très beaux costumes, Corinne Rossi, et elle s'est appuyée sur le film. Et c'est vrai que on voit les répétitions et le tournage de certaines séquences. Et quand on voit le film apparaître, on reconnaît certains des costumes qui ont été utilisés pendant les répétitions. Et en fait, je ne sais pas à quel endroit ça se situe, mais je sais que ça provoque une émotion chez le spectateur.
Ah ben oui, il y a une cohérence. Alors il y a cette grande émotion, et puis il y a une émotion. Je veux pas tout dévoiler, mais au moment où l'Aurore publie J'accuse,
oui.
Là, il y a quelque chose de très visuel sur scène.
Oui.
Je vous en parle, j'en ai encore la poule.
C'est la même scène, donc on est d'accord.
Nous sommes d'accord.
C'est la même scène, c'est exactement la même scène à laquelle je pensais.
Ouais. Et tous les spectateurs vous ont dit la même chose, j'imagine.
Oui, en général, on sent qu'à ce moment-là, il y a quand même, c'est un peu le...
C'est le clou du spectacle.
Ouais, on sent qu'il y a un gros silence derrière. Alors, soit ça provoque des applaudissements, soit au contraire, il y a une forme de
sidération.
De sidération, ouais.
Mais ça, c'est vraiment un très, très beau moment de théâtre. Vous voyez, on parle de presse, on parle de cinéma.
Moi, je ne l'ai pas vu, le spectacle. Et heureusement, d'ailleurs, parce que sinon, je ne serais pas là. Bon. Tu sais, ma politique, moi, j'aime pas parler avec les gens, parce qu'on n'est pas libre quand on est... C'est très difficile de dire du mal, ou d'ailleurs même de dire du bien avec des gens...
Qui jouent le soir.
Voilà, ce que tu es en train de faire, tu vois. Ce qui est toujours un peu gênant, parce que...
Sauf là, que non, parce qu'eux ne jouent pas.
Ils ne jouent pas.
Eux sont auteurs et metteurs en scène.
Voilà, c'est ça.
Donc nos commentaires ne vont pas dérégler leur jeu.
Voilà. C'est toujours un tout petit peu gênant. Donc, moi, je suis toujours un peu embêté par ça. La critique doit être vraiment libre. Et pour être vraiment libre, il ne faut pas qu'il y ait trop de complaisance et d'amitié. En tout cas, d'amitié, il doit y en avoir, mais pas d'amitié. Voilà. Donc, c'est toujours un peu complexe. Alors, en revanche, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a 7 comédiens. Je n'ai pas vu le spectacle, mais ça, c'est formidable. Et je regardais, là, je viens d'arriver, là, j'étais parti à écrire à la campagne, et je regardais la programmation du UCRNR, que j'aime beaucoup. Olympe de Gouges, avec Céline Monsard, excellente comédienne, merveilleuse comédienne, toute seule. Ensuite, Parle-moi, envole-toi, ou Comment le théâtre m'a sauvé la vie, avec Bruno Abraham Kremer, merveilleux comédien, type extraordinaire, formidable. Ensuite, Gustave Eiffel, avec Alexandre de Limoges, merveilleux comédien, tout ça. Vous avez bien compris qu'ils sont solos. Hein. Ensuite, avec Franck Desmet, Kessel, tout seul. Hein. Ensuite, vous avez Mes chers enfants avec Annie Dupéret. Personne ne va dire du mal d'Annie Dupéret comme comédienne. Et ensuite, vous avez La contrebasse avec Jean-Jacques Vanier. C'est une reprise, mais peu importe.
C'est une pièce à un personnage, c'est pas un seul en scène.
Oui, mais ce ne sont...
C'est une pièce à un personnage.
C'est un énorme problème à Paris aujourd'hui.
Et La contrebasse avec Jean-Jacques Vanier.
Et là, je ne te cite que la programmation du Lucernaire. Il n'y a maintenant quasiment plus que ça, des spectacles avec un comédien. Pour des raisons qui sont économiques, et ça devient extrêmement dangereux, extrêmement grave pour le théâtre. Il y a quelque chose qui est vraiment à faire. C'est pour ça que je salue, j'ai pas vu le spectacle, mais on a envie de le défendre, ne serait-ce qu'à cause de ça.
Alors
ensuite, les biopics, il y en a marre. Hein. Bon, aussi, ça aussi. Alors là, c'est ça là, l'autre c'est machin, l'autre c'est truc. Bon, voilà.
C'est pas un biopic.
Non, mais d'accord, mais quand même, bon, pourquoi ne pas écrire des vraies pièces Mais simplement, si vous aviez écrit une vieille pièce, il n'y avait pas le mot déjà là derrière, vous n'auriez pas été programmé. Non, je ne sais pas quel lien vous avez. Mais ça aussi, c'est un autre grave problème du théâtre aujourd'hui, quoi.
Vous l'avez dit en introduction.
Par rapport au fait qui est cette comédien, je dois dire que là-dessus, on peut quand même saluer le courage de Christophe Segura, Marilou Productions, qui prend 7 comédiens à la Comédie Bastille, alors que la jauge est quand même que 200 spectateurs. Et après, le Grenier de Babouchka qui coproduit, qui est donc notre compagnie. Merci. À Jean-Philippe Daguerre et moi. C'est vraiment notre laïus, de toute façon. On fait 7 comédiens, j'ai presque envie de dire. C'est la, minimum, la, le minimum, minimum qu'on chez ait vous, jamais c'est le minimum. Fait chez
mais
nous.
Je sais très bien.
Et moi, c'est vrai que j'adore. Alors, pour le coup, je parle en tant que comédienne et en tant que metteur en scène. J'adore quand il y a du monde sur le plateau. Je trouve que, voilà, c'est l'échange, qu'il y a avec nos partenaires et l'échange qu'il y a avec les spectateurs. Mais en fait, il y a, il y a quelque chose d'énergétique qui, même avec la meilleure, le meilleur comédien au monde, enfin, en tout cas, je ne dis pas que c'est mieux ou moins bien, mais c'est très différent, c'est vrai, quand on a un seul en scène. Après, il y a des merveilleux seuls en scène.
Évidemment. Voilà. Alors, ceux que je viens de citer,
oui, ils sont tous.
Il n'y a pas un mauvais.
Bien sûr.
Alors, puisqu'on a ouvert la parenthèse du grenier de Babouchka, il faut quand même que il faut quand même rappeler donc Les Téméraires à la Comédie Bastille, c'est depuis hier. Précipitez-vous. Il y a Le Huitième Ciel qui commencera le 12 septembre et ça sera au Théâtre La Bruyère à 21h. C'est la nouvelle pièce de Jean-Philippe Daguerre et c'est formidable. J'espère que Bernard Malacca ou Jean-Philippe viendront, ou vous revenez naturellement, Charlotte Mazeneff, il n'y a aucun souci. Le Voyage de Molière, ça tourne toujours. Les Trois Mousquetaires au Ranelagh, c'est...
Non, ça sera au Théâtre Montparnasse.
Au Théâtre Montparnasse, oui. Les Trois Mousquetaires.
Les Trois Mousquetaires, on passe au Théâtre Montparnasse.
Ça, c'est plein d'énergie, c'est de la folie. 11 comédiens.
Ils sont 12. Bah, 12 comédiens.
Bon. Le Malade Imaginaire, ça marche toujours.
Oui, toujours.
Les Faubourgs de Scapin.
Au Théâtre Splendide.
Au Splendide.
Le Médecin Malgré-Lui au Ranelagh.
Mais vous êtes partout.
Au Ranelagh. Alors, au Ranelagh, on en a pas mal. Hein. Cyrano de Bergerac, le Cid. Et je pense que là, on a fait le tour.
Et voilà. Donc, ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 de spectacles à peu près.
Oui.
Pour une même compagnie.
Oui.
Oui, ça va.
Oui, oui. ça dépend des jours, j'ai envie de dire. On est plus ou moins fatigué. Voilà.
J'imagine. Julien, vous vouliez dire quelque chose
Oui, je voulais aussi saluer Christophe Segura, parce que c'est, bien sûr, il programme Les Téméraires. Il a programmé la saison dernière La Grande Musique avec 6 comédiens. Et dans un 200 places et dans l'économie du privé, c'est assez téméraire.
C'est le cas de le dire.
C'est le cas de le dire, oui.
Vous aviez combien de places à Avignon?
On avait 198 places.
Ouais,
et on a la même chose à la Comédie Bastille en termes de jauge.
Et c'était complet tous les soirs.
C'était complet tous les soirs.
C'est quand même assez extraordinaire.
Non, mais ce qu'ils ont fait au grenier de Babouchka, c'est formidable. Il y avait connaissance des classiques. Enfin, il y avait tout à mon époque, tous ces gens-là. Vous avez pris le relais de tout ça et d'une manière un peu plus travaillée, un peu plus intelligente que ça n'était fait. Parce que on salue toujours le passé. Mais les spectacles qui étaient montés, Dieu, saluons la mémoire de Christian Grosteff, mais étaient quand même souvent faits un peu rapidement, quoi. Tandis que vous travaillez vraiment, et les spectacles sont quand même de meilleure qualité pour les enfants, parce qu'il y a toujours cette idée que, parce que comme c'est les adolescents, comme c'est les enfants, ça doit aller vite, ça ne doit pas. Voilà.
Et puis on peut être un peu bétifiant, alors que je pense que. En plus de ça, je trouve ça d'autant plus dommage que les jeunes et les adolescents, c'est le public de demain. Donc au contraire, je pense qu'il faut vraiment le soigner. Mais c'est vrai que Jean-Philippe Daguerre adore le théâtre classique, et avant d'écrire ses propres pièces, il a jamais eu d'autres envies que de monter du classique. À chaque fois qu'il me disait « Ah, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça », c'était toujours des pièces classiques. Jusqu'à ce qu'en fait, il commence à écrire lui-même. Et d'ailleurs, dans son écriture, on sent que c'est vraiment imprégné de cette littérature.
Bien sûr, mais c'est pas que pour les enfants et les adolescents. Moi, je pense par exemple à votre mise en scène du Cid. Mais j'en ai la chair de poule, rien qu'à vous en parler.
T'as beaucoup de chair de poule, c'est inquiétant, là.
Non, mais moi, je suis un peu une midinette. Quand j'arrive au théâtre, je suis toujours emballé. Enfin, j'aime bien être assis comme dans un train pour qu'on me mène en bateau. Et bien, quand c'est réussi, je trouve que c'est formidable.
Mais c'est vrai que je dois témoigner, pour maintenant avoir fait quelques émissions avec toi, que tu es vraiment le spectateur parfait.
Non, mais la midinette,
ça ne me permettrait pas. Mais le spectateur parfait, c'est-à-dire que tu y vas vraiment, alors que moi, je suis un spectateur critique, quoi. Mais moi, je regarde les choses avec.
Mais
moi, je suis plus.
Jean-Luc,
d'ailleurs,
je suis c'est
souvent atterré et toi heureux. Voilà. Alors, mais quelquefois, je suis atterré de voir si heureux.
Mais
le spectacle.
Mais
Jean-Luc, moi, je vois que des choses qui me paraissent.
Mais Jean-Luc, il faut le dire pour les nouveaux auditeurs qui nous écoutent, il m'arrive aussi de.
Oui, dire... alors là, c'est pour tuer un spectacle.
Dire qu'une pièce ne marche pas.
Mais bien entendu, mais alors là, c'est encore plus grave.
Et là, bah, c'est.
C'est un peu comme moi lorsque je dis du bien d'un spectacle.
Voilà.
C'est le contraire. Là, on se dit, là, faut vraiment y aller. Dire, là, faut vraiment pas y aller. Voilà, donc on est...
Alexandre Foulon et Julien Delpech, à quel moment vous avez eu dans l'écriture de la pièce, quelle a été pour vous la plus grande difficulté?
Je dirais que c'est de rendre le courage de Zola quand il écrit J'accuse, de comprendre ce qu'il risque, de comprendre que quand. Du fait qu'il va vraiment aller en prison et qu'il est prêt à y aller. D'ailleurs, dans la vérité historique, c'est sa femme et ses avocats qui lui conseillent de fuir en Angleterre.
Il y a ça, et il y a aussi, parce que comme il y a 7 comédiens, mais il y a 30 personnages. Donc il y a des personnages qui n'ont pas beaucoup de répliques.
Ouais.
Et on sait que pour les comédiens, c'est important que même un personnage qui dit 3 répliques, il ne faut pas qu'ils viennent pour dire 3 répliques, il faut que ce soit chargé. Donc, même sur des petits personnages, il faut quand même trouver les bons adjectifs qui vont permettre aux comédiens la bonne phrase, la bonne formulation, qui vont donner envie de descendre, que ce ne soit pas « Bon, il y a Zola, puis les autres, ils font les guignols ». Non, non, il faut que chaque fois qu'ils rentrent, ils aient quelque chose à défendre, même si c'est pour 3 répliques.
C'est très choral, d'ailleurs.
Oui. Et ça c'est très important pour ne pas perdre, parce que si après, il y a pendant 5 minutes, il n'y a que des petits rôles qui défilent où il ne se passe rien, bah, le spectacle, il retombe, quoi.
Bien sûr.
Et vous avez une vraie admiration pour Zola?
Son courage, moi je connaissais, c'est en fouillant et tout ça. Vraiment, alors ce que j'aime beaucoup, c'est cette contradiction qu'on soulève, puisque Zola, donc il a un combat pour la vérité, et Zola avait une femme. Et il a construit un foyer à Luthérin.
Alors, vous racontez cette histoire d'Alexandrine et Jeanne.
Donc, cette contradiction... Donc, moi, c'est ça qui me le rend encore plus... ça, c'est cette contradiction, ce personnage qui veut se battre pour la vérité et qui a vécu dans le mensonge. Et comment il fait pour concilier tout ça. Et donc, il lui faut beaucoup d'amour, il lui faut beaucoup de force, il lui faut beaucoup de courage. Donc, c'est un homme empêtré dans ses contradictions. Donc, c'est ça qui le rend très humain. Et c'est en ça qu'on ne fait pas « il y a le bon héros, il y a le méchant ». Que le héros, il a des contradictions. Et c'est ça qui est fort.
Ouais. Sur le plan de la littérature, des romans, vous les trouvez bons?
Alors, on a essayé de se concentrer sur l'homme et sur son article, plus que sur la littérature.
Bah, moi, je dois dire que, alors, j'ai pas lu de Zola depuis un petit moment, mais quand j'avais 16-17 ans, je crois que j'ai lu à peu près tout Zola, et j'adorais, vraiment. Donc moi, je me permets, j'aime beaucoup Zola. Voilà, après, c'est vrai que ça fait un petit moment que j'en ai pas lu, mais... j'aimais beaucoup.
Je pense que Germinal est un très bon livre.
Jean-Luc.
La faute de la Beaumouret est un très bon livre. Il y a quelques bons livres, mais enfin, c'est quand même de la confiture, quoi.
Voilà. Alors, c'est dit. Donc, s'il faut donner un peu son truc, moi, j'ai lu tous les Rougon-Macquart très récemment, et c'est une passion. Et la trilogie Lourdes, Rome, Paris, faut pas rater ça, hein. Et surtout, je le dis sur Radio Notre-Dame, il faut lire Rome, absolument, d'Émile Zola. Donc, non, c'est un très, très grand auteur. Et alors, il y met, en effet, toute sa force, toute sa réputation. Et en même temps, il y a, en effet, cette histoire d'Alexandrine et de Jeanne. Jeanne étant la blanchisseuse qui va être recrutée par Alexandrine. Elle a 30 ans de moins que... Enfin, 20 ans de moins. Un accident de buanderie, ça arrive. Bon, ben voilà, elle est enceinte. Et puis, elle va avoir un deuxième enfant. Et Zola va être père de famille. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on va parler de divorce à un moment donné. Et on en parle dans votre pièce. Et le mot est prononcé, je crois.
Non, on ne dit pas divorce. Non.
Mais on dit que le couple
ne se reverra
plus. On parle de ça.
Ils peuvent se séparer. Mm-hmm. Bon, il y a tellement de pognon que Alexandrine, elle a plutôt intérêt à rester. Hein.
Alors,
je crois que ça va au-delà de ça.
Ça va vraiment au-delà de ça,
puisqu'en
fait, c'est pas un accident. L'enfant n'est pas un accident de buanderie, parce qu'on sait d'après les lettres que entre le moment où Zola commence à flirter avec sa blanchisseuse
Jeanne.
Et le moment où il y a un acte de chair, comme on pourrait dire, il se passe plus
nous
de 6 mois.
Radio Notre-Dame.
Il se passe plus de 6 mois. Il se passe plus de 6 mois.
Ah oui.
Donc, il commence à flirter. Le mois d'après. Jeanne ne travaille plus au couple Zola et Émile lui prend un appartement. Et ce sera 3 mois plus tard qui consommeront leur relation, on pourrait dire.
Bon, eh ben écoutez, on va tout savoir sur Émile Zola, mais surtout sur cette affaire Dreyfus, comment elle est vécue à la fois par un homme de lettres et la presse, et un homme de cinéma, et le cinéma, c'est Zola, c'est Méliès, ce sont les Téméraires, et c'est à la Comédie Bastille, les mercredis et vendredis à 19h, les jeudis et samedis à 21h, et la matinale du dimanche, bien entendu, à 17h. Merci infiniment, Charlotte Mazenet. Bravo pour votre mise en scène. Merci. Bravo, Julien Delpech.
Est-ce
et Alexandre Foulon.
Vite fait les comédiens. On
comment
a le temps, les vite fait les comédiens.
Romain
Lagarde, Stéphane Dauche, Thibaut Sommin, Arnaud Alain, Sandrine Sebille, Barbara Lamballet et Armance Galpin.
Et bien moi, de mon côté, je remercie Cédric Coba pour la réalisation, Philippe Malpeche pour le générique, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Louis-Marie Picard et Camille Meyer qui vous permettent de réécouter l'émission en podcast et de la rediffuser. Aussi sur l'application d'ailleurs Radio Notre-Dame, ce qui vous permet de vous avoir dans la poche, ce qui est pratique. Alors lundi, nous nous retrouvons autour des expositions à voir. D'ici là, je vous souhaite un très très bon week-end. Prenez soin de vous et des autres et je vous embrasse. Nadir et Jean-Luc, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.